Est-ce qu'elle sait faire?
Mais c'est faire quoi, la pluie et le beau temps?
Non, allô,
Ah,
allô,
non mais allô
allô,
quoi?
allô,
Allô?
t'as pas de
Allô?
shampoing?
Non mais allô quoi? T'es un opérateur et tu te fais racheter? Non mais allô quoi?
Non, pire que ça, elle se fait démanteler.
Découper, ah,
Eh
démanteler,
oui, eh
découper
oui.
à la découpe?
Découper, là, voilà, en 3,
Vendu
4.
à la découpe.
C'est ça,
Oh là
vendu à
là.
la découpe, c'est ça.
Et tout le monde a sa part du gâteau alors, c'est ça?
Ouais, ou presque.
Ah bah voilà.
Eh oui, on va parler de SFR. Eh oui.
L'SFR, oui.
Ah ouais.
Bon.
Ma foi.
Eh ben, bienvenue. Bonjour
Bienvenue dans
Cécile.
Underscore, mais oui, on est sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et effectivement, je suis en compagnie de Amy Meman et Matt Bell. Bonjour.
Hello.
Et vous êtes sur Radio Méga.
Ouais, Fréquence Mutine, Westrack, ou bien Radio Cactus, ou
Ouais.
Radio Primitive.
Ouais.
Ah.
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 Ah, voilà.
Eh bien, nous allons avoir de l'actu.
Ah bah j'allais le dire.
Oh,
On m'a
des
coupé le...
fails.
Ah bah.
Des fails.
Ah bah. Alors attachez-vous, hein, voilà. On
Ah.
se met bien au fond du siège baquet, hein, on se sangle bien avec la ceinture
Allez,
parce que
on met bien
là,
la ceinture.
on y va à fond
Allez,
là.
attends,
Hein.
on met le démarreur. Broum.
Mmh.
Alors des trous, mais il y a des trous, hein. Il y en a des trous.
Ah oui.
Des hackers exploitent une vulnérabilité 0D dans Adobe Reader depuis décembre via Bleeping Computer. Depuis décembre, des pirates informatiques exploitent une importante faille de sécurité dans Adobe Reader.
Ah là là, quelqu'un s'est amusé à racheter 30 plugins WordPress pour y introduire des portes dérobées. Oups.
Un tracker Bluetooth à 5 euros a permis de géolocaliser un vaisseau militaire hollandais à 500 millions. Oups.
C'est un bon retour sur investissement. Hein. Bitwarden, l'outil en ligne de commande Bitwarden est compromis. Voilà.
Ouais, une version malicieuse du paquet Elementary daté de PyPI a été utilisée pour siphonner des données, des développements et des portefeuilles de crypto-monnaies.
Une faille de 15 ans dans OpenSSH offre un accès route total via une simple virgule dans une configuration. Oups.
Un trou énorme dans Linux a copy fail. Il y a des choses à faire pour l'éviter en attendant un patch officiel.
Et des bugs aussi.
Un bug dans la pile réseau de macOS qui foire au bout de 49 jours. Oh, sympa.
Copyright. Pardon.
Ah oui, copyright.
Ah bah oui. Ah, vas-y.
Docker cassé en Espagne lors d'un match de foot. Cloudflare a été bloqué entièrement pour éviter la retransmission sauvage.
Voilà les effets de bord.
Eh oui. Censure, surveillance et espionnage.
Et le calendrier de déploiement de la vérification d'âge en France a été publié. Mais on est contre en fait.
Oui.
Bruxelles lance une application de vérification d'âge cassée en 2 minutes. Tout.
La plupart des ados australiens, eux, contournent déjà la vérification d'âge avec des masques et les papiers d'identité de leurs parents. Tout va bien.
Le US Data Hub, devenu la plateforme de données de santé, se détourne de Microsoft et choisit Skyway pour l'hébergement de données de santé. Tant pis pour MS.
Et les GAFAM, alors ?
Alors, les développeurs de VeraCrypt et WireGuard, on a cité la semaine dernière, ont vu leur compte Microsoft verrouillé sans explication. Ils ont quand même fini par le récupérer, heureusement, mais bon, on n'a toujours pas d'explication.
Plein de gens démissionnent de chez Microsoft.
Oh. Un cadre de Microsoft, lui, il n'a pas démissionné, suggère que les agents IA devraient acheter des licences de leur logiciel. LOL.
Tout. Il semble que Microsoft ne se trouve pas assez de puissance de calcul en Europe pour gérer des requêtes.
Ah bah
donc...
oui, mais j'ai fini la rédaction cet après-midi,
ouais.
Enfin, l'après-midi de l'enregistrement. Donc...
Alors, il fallait demander un copie. Non, je plaisante. Et donc, il ne se gêne pas pour envoyer ça ailleurs par défaut.
La conclusion d'un papier de Microsoft Research, c'est que les LLM ne sont pas seulement mauvais pour analyser les documents, ils les pourrissent.
L'outil en ligne de commande GH pour Microsoft GitHub fait de la télémétrie, façon polie de dire qu'il vous espionne.
Une panne de GitHub et certaines pull requests ont été corrompues, donc il va falloir les vérifier avant de merger tout ça.
Une exécution de code à distance sur les serveurs de Microsoft GitHub, oulala.
Voilà, bon alors on change maintenant, c'est Amazon qui arrête le support de certains modèles de Kindle. Alors il reste possible de les utiliser notamment avec Calibre, qui est un logiciel libre, ou de faire un jailbreak aussi, hein, donc de reprendre le contrôle de sa liseuse.
Le coût de l'abonnement Washington Post, détenu par Jeff Bezos, va augmenter en fonction des données personnelles des lecteurs. Mmh. Ah,
eh ben oui, chacun son tarif. Meta va enregistrer les frappes de clavier et mouvements de la souris de ses employés pour entraîner son IA, oui, bah...
Sur Instagram, Facebook ou TikTok, seulement 18% des posts vus viennent de gens que vous connaissez. Le reste, c'est des influenceurs, de marques, des pubs, vos réseaux sociaux ne sont plus vraiment sociaux.
Non, mais 18%.
Ouais, ouais. Meta va licencier environ 8000 personnes, soit 10% de ses effectifs. Bon, c'est pas comme s'ils avaient embauché à tour de bras tous les ans depuis 2019.
Ah bah si,
en fait. Mmh.
Google Photos confirme que sa dernière mise à jour l'autorise à scanner toutes vos photos afin d'utiliser des images réelles de vous ou de vos proches pour générer des images par l'IA.
Et Google signe avec le département de la défense US pour laisser le Pentagone utiliser son IA, même si les employés de Google sont contre.
Et il y a de l'IA ?
Oh bah,
l'éditeur du dictionnaire Merriam-Webster poursuit OpenAI pour avoir pompé 1, 2, 3, 100 000 articles.
L'IA accumule une dette connective d'après le MIT. Donc chez les gens, pas chez AZ.
D'après une étude de l'université de Cornwall, les IA biaisent les gens. Même s'ils sont au courant de ces effets.
Ah, ils sont au courant qu'ils sont biaisés, ouais. Une réécriture de SQLite en Rust par une IA a passé tous les tests et le code semblait correct, mais était près de 4 fois plus long au niveau du code et 2000 fois plus lent. C'est pas encore tout à fait ça.
Alors, Musk licencie du personnel chez Grok, y compris les cofondateurs. Il n'en reste plus que 2 sur les 11 de départ.
Le Wikipédia anglais bannit l'usage de l'IA pour l'écriture des articles. Ouf.
Pokémon Go a servi à entraîner des robots à la navigation. Attrapez-les tous.
Ah. GitHub, tiens encore, utilisera probablement bientôt vos données pour entraîner Copilot. Bah tiens.
Plus de doublage chez Blizzard, plus. Soit les acteurs et actrices de doublage acceptent un contrat où leur voix peut être utilisée pour entraîner l'IA, soit ils virent la VF du jeu et tentent de résister.
Arte et TV5 Monde utiliseraient des LLM pour la traduction dans certaines langues et les traducteurs se contentent maintenant donc de faire la post-édition payée bien moins cher évidemment.
Mistral AI lève 830 millions de dollars de dettes pour acheter des GPU Nvidia.
Des LLM refusent maintenant de reproduire les paragraphes d'un livre pour 0,15% de recouvrement, mais bizarrement se laissent convaincre à compléter du code source avec 53% de recouvrement. Non, bien sûr, hein, ils refont pas tout. Non.
L'Union européenne bannit l'usage des IA génératifs pour la communication officielle.
On savait que les sondages ne valaient pas à grand-chose. Maintenant, certains instituts utilisent des LLM pour simuler des réponses et ainsi gagner du temps. Ils n'ont plus besoin d'interroger des gens en réel et de la rendre aussi, mais ça, c'est moins sûr.
Itinéraire fantaisiste, ce parcours dangereux, bivouac interdit, des randonneurs trompés par l'intelligence artificielle. L'IA ne marche pas sur les sentiers.
Oh. D'après une étude de la BBC, les LLM déforment les nouvelles 45% du temps. Google Gemini en tête avec 76% de réponses erronées. Et ce alors que Google le pousse en première page de ses résultats de recherche, bien évidemment.
Ah ouais. Le Japon simplifie sa législation pour bien permettre le développement de l'IA. En supprimant la possibilité de refuser l'utilisation de ces données.
Ah oh là là. Alors, Anthropic a sorti Mythos, le fameux projet Glasswing, qui soi-disant était trop dangereux pour sortir tout de suite, et qui certes trouve des failles, mais alors certaines visiblement pouvaient aussi juste être trouvées par fuzzing. Hein, donc on change un petit peu les données d'entrée aléatoirement pour voir si ça casse, et si on s'en était donné la peine. Mais le problème c'est que voilà, ils trouvent des failles dans des projets en fait, où personne n'a essayé avant de chercher des failles. Et voilà, et du coup, Claude Mythos, il paraît, ne dort jamais, mais il ment sur son identité et personne n'en parle.
Oh, c'est pas Mytho version. Oh, non. Un chercheur a inventé une maladie oculaire, la bixomimanie. Oh. Soumis de payer manifestement frauduleux sur des serveurs et vu par les éditeurs d'IA les lire et présenter ça comme de la vraie médecine en quelques semaines. Les papiers en question remerciaient la Starfleet Academy, citée l'université de la communauté de l'anneau.
Oui, il fallait suffiser de lire pour voir que c'était... Linus Torvalds accepte que les contributeurs soient assistés par des IA pour contribuer au noyau, mais ils devront quand même le mentionner et accepter la responsabilité de leur contribution. Hein. Voilà. Bon.
En nous, Atlassian commencera à utiliser les métadonnées de ses produits. La gestion des bugs gira en outre pour l'entraînement d'IA.
Eh oui. De plus en plus d'entreprises en liquidation revendent leurs, enfin nos données, pour entraîner des IA entre conversations Slack et email, sans notre accord bien sûr.
Ah ouais, quand même. Ouais. D'après Gartner, 50% des consommateurs US préfèrent les marques qui n'utilisent pas d'IA. Le PDG d'NVIDIA va dire que les consommateurs ont tort.
Peut-être. D'après un sondage, la génération Z ne semble pas si enthousiaste envers l'IA. Historiquement, c'est un mauvais signe que les jeunes refusent certaines technologies. On peut se rappeler du Zune, de Microsoft, de Google+. Enfin,
L'IA fait abandonner le raisonnement logique.
Ah mince alors. Et oui, alors il y a plein d'études là. Une preuve mathématique au MIT et une autre étude de Stanford aboutissent à la même conclusion. Le problème des chatbots n'est pas tant qu'ils se trompent, mais qu'ils sont si enthousiastes qu'ils renforcent nos croyances, même quand nous nous trompons nous-mêmes.
Dans Science, une étude parle de l'IA qui rend dépendant.
Et dans Nature, une étude indique que ça rend moins gentil.
Une étude publiée par la revue Nature relève que les modèles IA peuvent se transmettre des biais, des préférences, voire des comportements problématiques à travers des données qui n'en contiennent aucune trace visible.
Une étude de 2026 semble montrer que les exemples d'utilisation de LLM efficaces seraient le résultat de copies directes de réponses trouvées sur Stack Overflow et non un raisonnement logique. C'est normal, il n'y en a aucun dans les LLM de raisonnement logique.
Près de la moitié des titres mis en ligne sur Deezer chaque jour sont générés par IA.
Oh là là. Anthropic supprime l'intégration tierce de Claude, notamment dans OpenClaw. Bah oui, on ne va pas concurrencer...
Anthropic installe un spyware en même temps que Claude Desktop.
Anthropic toujours envoie des mises en demeure de dépublier le code source de Claude après une fuite. C'est pas les mêmes qui se fichaient du droit d'auteur quand c'était pour entraîner leur truc?
La fuite du code source de Claude risquait de donner un paradoxe intéressant en droit d'auteur, puisque l'utiliser pour le réécrire, en théorie, pourrait donner une nouvelle œuvre dont Anthropic ne pourrait pas exercer de copyright dessus.
Et ouais. Alors puis en plus, ceux qui ont regardé le code de Claude, ils n'ont pas cessé d'halluciner, vraiment pour le coup-ci, parce qu'il paraît qu'il est moche. Certains demandent que tous les employés d'Anthropic soient bannis de contribution à tout projet libre, puisqu'il semble que Claude, utilisé en interne chez eux, sache se faire passer pour un humain sans dire qu'il est une IA. Donc en fait, il dit même pas que c'est lui, quoi.
Certaines entreprises commenceraient à virer leur IA hein, pour embaucher des humains à la place, qui eux ne multiplient pas leurs tarifs par 5 et rient aux blagues.
Une étude montre que Grok et Gemini entretiennent les illusions des utilisateurs isolés, c'est dur à dire, alors que les derniers modèles de ChatGPT et Claude semblent débrancher les émotions.
Je n'ai rien à cacher, même à ChatGPT. Si, protégez votre vie privée. Même au sein du couple, il y a déjà eu des ruptures à cause des conversations retrouvées.
Ça y est, les gens commencent à comparer les prix des LLM et les hausses de tarifs, presque un fois 10 sur certains, et paniquent qu'on puisse leur enlever leur perroquet stochastique.
Cacahuète. Anthropic devient sponsor du Blender Development Fund. Pas sûr que ce soit pour le mieux.
Eh oui, il y en a encore. Des mathématiciens prouvent formellement, c'est-à-dire analytiquement, hein, par le raisonnement logique, que les IA ne peuvent pas s'améliorer à l'infini. Oh.
Le gouvernement britannique aurait sous-estimé les impacts des data centers pour l'IA d'un facteur de 100 au moins.
Ah ouais. Ah ouais. La dernière note de conjoncture de l'INSEE révèle l'impact de l'IA dans le secteur des activités informatiques.
Sinon, faites comme ce professeur d'allemand de l'université Cornell qui utilise de vieilles machines à écrire mécanique en cours pour éviter l'usage de l'IA et expérimenter l'absence de touches supprimées.
Ah oui, là t'es un peu obligé de réfléchir avant de taper.
Et en vrac?
Ah, et ben Micmac entre The Document Foundation et LibreOffice d'un côté et Collabora Online qui a vu ses développeurs éjectés de la fondation. On va éviter de choisir un con.
Il y a un conflit entre OnlyOffice et EuroOffice autour de la GPL version 3.
Voilà, même les libristes, ils peuvent pas se mettre d'accord. La défenseure des droits dresse un constat alarmant. La dématérialisation des services publics vire au fiasco.
D'après l'étude AccessWay, 80% des Français rencontrent des difficultés de navigation web sur leur smartphone. Et la toute première cause, loin devant les lenteurs de chargement, l'intrusion publicitaire, bien sûr.
Installé un adblocker. À Bruxelles, dans la Vienne, des rats privent des centaines de personnes d'Internet car ils ont grignoté la fibre. C'est bon. Bah, c'est bon pour la transit. Hein.
Linux supprime. C'est bon les fibres. Hein. Ouais. Linux supprime plusieurs pilotes et sous-systèmes comme le support DSDN, AX25, AMRadio, ATM. Si vous avez encore besoin, c'est le moment de vous faire entendre.
Ah oui, on peut peut-être encore revenir dessus, mais il faut vite le dire.
Eh bien.
Ah, c'est, en fait des fails. C'est bon la digestion.
Oui, c'est la fin des fails. Merci les gars d'avoir été jusqu'au bout de cette liste.
Et encore, j'ai gardé les fuites pour une prochaine fois. Parce que
tu as bien fait parce qu'il y en a énormément. Eh bien, en attendant, nous allons écouter une petite chiptune et on se retrouve après pour notre sujet du jour. On parle de SFR. À tout de suite. Il s'agissait de Pushki de Jogger Ligelal.
Sympa.
Ouais, carrément. Eh bien, encore.
Ça fait un peu Atari, mais en fait, c'est de l'Amiga, c'est ça?
Mais oui, c'est toujours de l'Amiga. Il s'agissait d'une musique illustrée, une démo qui a été classée 3e à la révision 2026 dans la catégorie Hot School Music Competition. Donc voilà, c'était Jugger, donc forcément.
Très sympa.
Ouais, c'était appréciable. Eh bien, vous êtes de nouveau sur Noscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et aujourd'hui le sujet, c'est...
Je vais te laisser faire.
Oh bah oui, non mais on va tous en apprendre de ça. Eh bien, croyez-le ou non, la mort programmée de l'opérateur SFR devrait arriver.
Oh.
Eh oui. T'es chez SFR ?
Non.
Bah moi, je suis presque chez SFR. Non.
Ah oui, il y a les autres aussi, les sous-traitants.
Je suis un sous-traitant.
VNO, ça.
C'est ça. Eh bien, encore une fois, un brassage aura lieu auprès des utilisateurs de téléphones portables. Et ce n'est pas une très bonne nouvelle, surtout sur le tarif de nos factures. Et nous allons donc revenir sur l'histoire de cet opérateur et aussi un peu sur l'histoire du mobile en France. Oui, ça a bien de faire des petites piqûres de rappel. Eh oui, parce que le mobile n'arrive pas comme on se l'imagine avec le bon vieux Nokia qui aurait bien pu faire figure d'ancêtre, n'est-ce pas hein? Tu l'avais chéri, ouais. ton
ah,
Nokia.
Ah, mais il m'a duré 15 ans, je l'ai réparé, il a duré 6 mois de plus.
Mmh. Voilà. Eh bien oui, il y a
j'avais le mobile, mais je n'avais pas l'opportunité.
Il y avait bien eu un début à tout et c'était en voiture. En France, le tout premier portable remonte à 1986. À l'époque, c'est France Télécom qui lance le réseau Radiocom.
Merci
2000.
Merci France Télécom.
Hein, attends. Hey, Radiocom 2000.
Ouais.
Hein, on était en 86. C'était le futur. Non, mais là, tu es en train de me montrer...
J'étais tease, mais c'est de la...
Mais oui.
C'est pour ça que j'ai parlé d'Atari.
Mais oui, parce que tu as une manette d'Atari 2600, là. Alors, mais attention...
Faut que je finisse de modéliser, mais ça n'a rien à voir avec le sujet.
Et oui, rien à voir avec nos smartphones. On parle d'appareils énormes, parfois fixés au tableau de bord et qui coûtent une petite fortune,
ouais.
Clairement réservés pas à n'importe qui. À l'époque, le téléphone portable reste un produit de luxe, un appareil qui coûte l'équivalent de plus de 2 000 € et surtout destiné aux professionnels ou aux personnes qui ont besoin d'un téléphone dans une voiture. Il faudra attendre 1987 pour voir débarquer SFR. Oui.
La Société Française de Radiophonie.
Oui, c'est ça. Un premier opérateur privé qui vient casser le monopole.
J'ai pas eu besoin de lire le panneau.
Mais commencé. Non, c'est en 97. Bref, le vrai tournant arrive au début des années 90 avec le GSM. Là, les téléphones deviennent enfin de plus en plus portables et de plus en plus modernes. Parmi les modèles de culte de l'époque, effectivement, le Nokia 1011 lancé en 92 et c'est l'un des premiers mobiles utilisables sur les nouveaux réseaux. En clair, en moins de 10 ans, on est passé du téléphone de voiture hors de prix au début du portable pour tous. C'est une vraie révolution qui va changer la vie de beaucoup de personnes. Le véritable tournant arrive au début des années 1990 avec l'arrivée du GSM adopté en France en 1993 pour les jeunes Z. Plus moderne et moins coûteux, il permet à SFR de développer rapidement et après avoir obtenu en justice une baisse de prix d'accès au réseau numérique contrôlé par France Télécom, l'opérateur lance ses premières grandes offres promotionnelles et participe à la démocratisation du mobile. Et oui, même si au départ, les Français considèrent encore le portable comme un gadget un peu cher et un peu snob. Alors que les réseaux GSM poursuivent leur croissance, lentement mais sûrement, un réseau alternatif est proposé en 1993, le Pointel. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Eh bien, ce réseau, contrairement au GSM, n'est pas à proprement parler un téléphone mobile. Il ne permet pas de recevoir des appels, seulement d'en émettre lorsqu'l'usager se trouve à proximité immédiate d'une borne.
Et oui. Il faut savoir où elles sont déjà.
Aussi. Il est à ce titre qualifié de cabine téléphone de poche. Le succès de ce réseau n'aura pas lieu. Le développement rapide du GSM, la réduction de la taille des téléphones devenant réellement portables, annihile tout espoir et avantage du Pointel. Du coup, France Télécom lancera un ultime rattrapage en associant la compatibilité avec les téléphones portables domestiques, hein, avec une base chez un particulier. Et ce réseau fut abandonné en 1997, n'ayant pas convaincu qu'une centaine de milliers d'usagers. Et pendant longtemps, SFR a gardé une image très pro. L'entreprise cible surtout les cadres, les dirigeants, avec une offre adaptée aux entreprises. Ce positionnement marque durablement son identité. Mais à la fin des années 90, l'opérateur accélère avec des campagnes publicitaires massives, l'ouverture des célèbres espaces SFR, ouais, et des offres devenues cultes, comme le forfait Millennium, qui permettait d'appeler gratuitement le soir et le week-end à vie.
Il marchait que sur Atari, Falcon ?
Ah ben non, non.
Millennium, non,
non, non, non, non, c'était
à vie.
C'était, ouais, ouais, ouais. Le forfait était à vie.
À la vie de l'entreprise.
Mais oui.
Du coup.
Oui, là, on est un petit peu sur la fin. Le succès est énorme. 400 000 clients signent. J'achète. Et certains revendent même leurs abonnements sur le marché noir jusqu'à 10 000 euros. Vous imaginez ? Eh ouais. Il y en a qui ont fait de l'argent.
Ouais, ouais.
SFR devient ensuite un opérateur global intégrant Internet, la téléphonie fixe et la télévision, notamment grâce à Cegetel, puis 9CGTEL en 2008. Et il devient le deuxième opérateur global français derrière Orange.
Orange.
Et ouais. Mais à l'arrivée de Free Mobile en 2012, changement total de la donne. Avec ses forfaits à moins de 20 euros, Free casse les prix.
Eh ben, t'as tout compris.
Il fait fuir les clients et oblige SFR à supprimer plus de 1100 emplois. L'entreprise peine aussi à s'adapter au modèle du quadruple play qui regroupe le mobile, le fixe, l'internet, la télévision. Finalement, fragilisé, SFR est vendu à part Vivendi à Numericable en 2014 pour plus de 14 milliards d'euros. Une page se tourne alors à celui qui elle avait largement contribué à faire entrer le téléphone portable dans le quotidien des Français. Mais aujourd'hui, le dernier acquérant veut vendre son bébé. La maison mère de SFR Altice France veut vendre ses activités pour éponger sa dette colossale. Les clients devraient
être
répartis.
Tu as trahi le secret.
Eh oui. Eh oui, oui, oui. J'ai trahi le secret, tu as raison. Les clients devraient être répartis entre les autres géants des télécoms, mais il reste de nombreuses étapes. Le groupe Altice, propriété du groupe du milliardaire, comme tu disais, Patrick Drahi, survit avec une dette abyssale. En octobre 2025, elle est passée à 24 milliards d'euros. De 24 à 15,5 milliards d'euros. Ça a bien fondu. Ouais. Après une opération de restructuration financière les plus importantes que jamais réalisées en Europe et un accord avec ses créanciers qui ont obtenu 45% des parts de la capitale du groupe, Patrick Drahi conservant 55% restants. Alors, pourquoi SFR pourrait être vendu ? Eh bien, le groupe Altice, propriétaire de SFR, donc qui est fortement endetté, comme je viens de le dire, il veut se désendetter, il vend progressivement ses actifs comme BFM TV, RMC, et envisage désormais de céder une grande partie des SFR aux concurrents. Alors, quelles activités sont concernées ? La majorité des activités de SFR, donc les clients particuliers, les clients professionnels, les box et mobiles, seraient vendues à Bouygues Télécom, Free et Orange. Certaines activités restent exclues, notamment la fibre XP Fibre, les data centers ou encore les services clients. Et qu'est-ce que ça va changer pour les clients ? Eh bien,
ah oui, qu'est-ce que ça va changer ?
Eh bien oui, à court terme, rien ne devrait changer. Ah, rien ! Même le service, ce sera le même. Ouais. Le prix équivalent.
Enfin, pendant 2 mois en tout cas.
Ouais, le prix équivalent ou inférieur. On aura la continuité du réseau SFR pendant la transition. Et à plus long terme, effectivement, les clients seront répartis entre les trois opérateurs. La marque SFR pourrait définitivement disparaître. Et la guerre des prix pourrait aussi diminuer parce qu'effectivement...
Il
n'en reste plus que trois. Et là, effectivement, la répartition, elle est beaucoup plus grosse hein, sur chaque opérateur. Donc, encore des histoires d'entente de prix, on en a entendu parler. Non, ça n'existe pas.
Non,
pas
sûr,
du
non,
tout.
C'est pas possible, c'est pas possible.
Surtout pas la hausse. Hein.
Non.
Eh ben oui. Et quand est-ce que ça pourrait se faire ? Eh bien, les négociations sont en cours jusqu'au 15 mai 2026. On n'est pas très loin de la date. Hein.
Ah oui. On verra bien.
Et oui, on verra. Même en cas d'accord, il faudra encore des validations réglementaires, donc rien n'est garanti à ce stade. Et finalement, derrière cette possible disparition de SFR, c'est aussi une page de l'histoire des télécoms français qui pourrait se tourner. Un opérateur qui a participé à démocratiser le mobile, qui pourrait aujourd'hui disparaître dans le marché français et qui lui-même a contribué à créer. Reste une question, moins d'acteurs, donc ça veut dire moins de concurrence, donc des factures peut-être plus salées. Eh bien, la réponse, c'est dans les prochains mois.
Ah bah, tu reviendras nous le dire.
Eh oui, on vérifiera ensemble ce qu'il s'est passé. Est-ce que SFR, son démantèlement...
Alors, numéro de client...
SFR, la malle,
Ouais, elle sait faire bien la malle, là.
Ouais.
Pour le coup. Et oui, et du coup, en Belgique, SFR, ça n'existe pas.
Indirectement, oui. Mais bon, disons que c'est via sous une autre marque, quoi.
D'accord.
Oui, en fait, ils ont une marque belge, mais en fait, c'est eux, quoi.
Voilà. Et comme Orange, là, c'est Orange qui a racheté un ISP public.
D'accord.
Donc, SFR en Belgique aussi va disparaître, du coup.
Ah, c'est possible.
Ah oui, comme quoi, c'est aussi le cas pour vous.
Ah oui, c'est des gros groupes, c'est aussi internationaux, quoi.
Comme quoi.
Eh bien, merci Cécile, tu nous tiendras au courant, s'il te plaît.
Eh bien oui, on verra dans les prochaines news des prochaines semaines, voilà, pour voir un petit peu l'évolution de ce démantèlement. Eh bien, on écoute une petite chiptune.
Ouais.
À tout de suite pour l'agenda. Il s'agissait de Dragon Clouds Vanity, la musique a illustré la démo de Amstrad qui est passée à la révision 2026.
Tom et Jerry.
Tom et Jerry. Ce sont un petit peu des Français, je crois. Hein.
C'est cool.
Ouais. Tu l'as bien aimé, je crois.
Ah, j'ai adoré.
C'est magnifique.
Ah, c'était zen, tu peux pas savoir.
Complètement, oui. Passons à l'agenda.
Eh ben ouais, qu'est-ce qu'on a ? Ben on a les RPLL, les rencontres professionnelles du logiciel libre. C'est un événement incontournable pour les acteurs du numérique engagés. C'est mardi 12 mai, Palais de la Bourse, Place de la Bourse à Lyon. Pardon, Maître Belle recommence parce que j'ai oublié de te remettre
c'est
le micro.
Grave.
Journée de réseau de recherche reproductible. La première journée sera consacrée à l'outil d'environnement logiciel reproductible GUX. Les deux journées suivantes seront quant à elles orientées vers un échange multidisciplinaire autour de la reproduction au sens large. Gratuit sur l'inscription du 19 mai au 21 mai à Bordeaux.
Ah, bah voilà.
Du lien à des liens.
La liste No AI, on n'a parlé pas beaucoup de fails dans les,
ah oui, non.
D'AI dans les fails d'IA, recense les projets ou forks de projets qui s'engagent à ne pas utiliser l'IA générative pour leur production. Privacy Next, c'est un annuaire d'outils numériques évalués selon leurs pratiques de confidentialité. 137 outils, dont 102 open source et 83 européens, classés par catégorie messagerie, navigateur, OS, IA, stockage, DNS. Et enfin, un article de blog détaillant tous les paramètres de confidentialité des différents réseaux sociaux et autres GAFAM que l'auteur utilise. Ben, c'est bien caché tout ça.
Eh bien.
Ouais.
Astrologique, frottons cette boule. Eh, c'est dommage, on peut pas faire des mêmes blagues quand le téléporteur que sur un télécopieur. Non.
Technobéa, SFR, c'est une valse.
Wow, no life. Mais de toute façon, ça fait longtemps que je suis forfait sur le téléphone, plus personne m'appelle et j'appelle plus personne.
Atariste, si ton Falcon déconne, je peux t'en délester.
Amigaïste, pareil avec ton 1200, je trouverai toujours une place.
Électronicien. Avec les fils, j'ai un succès fou. Ouh, je les dénude, je les soude beaucoup.
Oula.
Ouh, du torsade et j'en ai mis partout. Ouh.
Ouh.
Les fils électriques.
Ouh, les fils.
Non, mais vous avez vraiment une
ça,
imagination,
c'est chaud,
mais
là.
Alors... Oh là là.
Ah oui, non mais vraiment,
ah bah
je
si,
me suis
si tu
cru.
Soudes, c'est chaud, oui, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr.
Ça c'est sûr.
Ah bah alors.
Voilà, bon.
Ah, sacré chose. Hein. Non mais en parlant de No Life...
C'est une sacrée soirée.
Oui, non, en parlant de No Life, j'ai vu qu'il y avait No Life
oui,
sur Twitch. Ça y est,
oui, il y a une soirée No Life parfois.
Ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment bien. Puis on peut revoir des vieux épisodes de l'époque de No Life.
Alors c'est juste qu'il l'annonce en général trop tard pour qu'on l'annonce nous dans l'émission. Mais...
C'est un peu ça.
C'est un peu ça.
Mais bon, vous pouvez suivre sur Twitch No Life qui revient de temps en temps,
c'est
avec
ça.
Des vieilles émissions, avec les animateurs qui ont un peu des cheveux blancs aujourd'hui.
Ah bah eh ouais. Moi aussi, un petit peu, parfois.
Tu crois? Non, je peux pas
moi,
croire.
Moi, j'en ai toujours eu, en fait.
Non, mais en fait...
Spoiler,
vois...
j'ai toujours eu au moins un cheveu blanc.
Non,
j'en avais
attends,
un quand j'étais petit.
À la radio, nous, on vieillit jamais. Mais je crois que c'est pas le cas de tout le monde, hein,
ouais,
n'est-ce
puis,
pas
voilà. Et puis, il faut dire que le matériel, parfois, il nous fait vieillir un peu rapidement. Quand il n'y a plus rien qui marche,
plus,
là.
Dis donc.
Voilà.
Allez, un suppositoire et olé.
Allez, je vais prendre ma tisane et je vous laisse, les auditeurs
c'est l'heure de la sieste,
et auditrices. Mais oui.
Voilà.
Eh bien.
Donc, vous nous retrouverez la semaine prochaine sur Radio Méga.
Eh oui, Fréquence Mutine, Westrack, Radio Cactus et Radio Primitive.
Eh ben voilà. Ou sur underscore.radio.fm.
Eh bien, voilà. C'est la fin de notre émission. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Ciao, ciao, salut.
Salut.
Bye bye.
Bonjour Vivian, bonjour Lulu, bonjour Nathalie, bonjour Flo.